Géopolitique. Éric Bataillon.
Merci pour ces informations. Retour à notre débat sur le Yémen, un état de la péninsule arabique qui sort d'un long dialogue national avec les mouvements contestataires de 2011. On ose à peine parler de printemps arabe. Nous en parlons avec nos invités, Franck Mermier, directeur de recherche au laboratoire d'anthropologie urbaine du CNRS à Paris, et Laurent Bonnefoy, chercheur au CERI, spécialiste des mouvements salafistes et de la péninsule arabique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation unique parmi les pays qui ont connu une révolution populaire au printemps 2011. L'ancien président a quitté les feux de la rampe, mais il reste bien présent. Il est toujours président de son parti, le Congrès général du peuple, et on le dit, à la tête d'importants moyens militaires et financiers. Quelle est aujourd'hui sa place réelle et son poids sur l'échiquier politique yéménite, Laurent Bonnefoy ?
Alors en effet, la spécificité, c'est bien qu'il reste encore aujourd'hui un acteur central dans la politique yéménite. Il est encore président de son parti, et de façon tout à fait intéressante, le nouveau président Abderrabou Mansour Hadi appartient encore à ce parti, le Congrès Populaire Général, et donc ce qui lui crée un certain nombre de tensions. Ces tensions-là génèrent bien souvent de la violence. Alors on a du mal à considérer ou à donner des éléments vraiment tangibles de l'implication de Ali Abdallah Saleh et ses alliés dans des phénomènes de déstabilisation, mais c'est très probable aujourd'hui. Et en dépit d'une santé assez fragile, il faut savoir qu'en 2011, il a été blessé dans une attaque contre sa mosquée. Il était allé se faire soigner en Arabie Saoudite. Il reste aujourd'hui une entité importante et beaucoup considèrent qu'il continue à préparer la place pour son fils.
Alors Franck Mermier, le président Ali Abdallah Saleh a régné, si on peut dire, en tant que président pendant une trentaine d'années. Aujourd'hui, il est retiré depuis 2012, mais est-ce qu'il a toujours un pouvoir occulte ou en tout cas de nuisance sur la vie politique ? Est-ce qu'il influence cette vie politique actuellement au Yémen ?
Oui, il influence bien sûr la vie politique, d'autant plus qu'il conserve encore des relais dans l'appareil militaire. Il ne faut pas oublier que durant ses 33 ans de règne, il avait évidemment placé à des personnes de sa famille ou des alliés au direction des services de l'armée dans l'État, et notamment à travers aussi l'institution tribale, puisque une partie des chaires de tribus touchait aussi des subsides de l'État. Il y avait un conseil des tribus qui était en fait lié à l'État. Donc il a encore tous ses alliés qui continuent à être dans le paysage politique. Dans le même temps, même au sein de son parti, de Congrès Général Populaire, il y a des personnes aussi qui ont pris leur distance vis-à-vis d'Ali Abdallah Saleh. Donc il reste quand même aussi le symbole d'un régime quand même qui a duré 33 ans, qui est quand même marqué par la corruption, la kleptocratie, on pourrait l'appeler comme ça. Et donc, il sera difficile qu'il puisse véritablement préparer son retour. En revanche, il peut conserver une force de nuisance pour empêcher que les nouvelles autorités politiques puissent concrétiser leurs projets.
Mais il a encore des forces donc politiques, puisqu'il est toujours président du parti dont il est issu. Mais est-ce qu'il a aussi des forces militaires qui dépendent de lui ? Est-ce qu'il a aussi des financements qui lui permettent d'influer sur la vie politique ?
Alors, on a parlé de kleptocratie. Effectivement, durant ses 33 ans de règne, il a réussi à amasser une fortune considérable. Et aujourd'hui, le nouveau pouvoir, c'est assez délicat de dire comme ça, mais enfin, disons, les nouvelles autorités politiques essayent de restructurer les forces armées pour éviter que une partie de ces forces armées soit un relais pour l'influence d'Ali Abdallah Saleh. Donc, cela se fait un petit peu dans la douleur, difficilement. Il est vraisemblable qu'il conserve encore des alliés au sein des forces armées, parce qu'on peut pas comme ça extirper 33 ans d'influence. Et dans le même temps, comme je le disais, toute cette force de nuisance, toute cette force politique reste quand même marquée par ce handicap qui est qu'il représente un régime quand même qui est celui de la corruption.
Alors la question de l'impunité du président, qui est avérée, qui a été l'un des éléments qui ont permis son départ, Laurent Bonnefoy, c'est un problème pour l'évolution politique à venir du Yémen ? Ou non.
Alors, moi, c'est sans doute un problème dans le sens où il y a une contestation de cette impunité. Dans le même temps, le choix qui a été celui des élites politiques dans le cadre de l'accord de transition, cet accord de transition a été sponsorisé par les monarchies du Golfe, par la communauté internationale. Cet accord de transition a fait donc le choix de, d'une certaine manière, éviter que l'ancien régime ne se sente totalement lésé. Et donc, c'est un choix d'une transition assez progressive. Et donc, par exemple, il y a eu un ménage qui a été lancé dans les forces de sécurité. Le fils du président Saleh Ahmed était à la tête d'un organe de sécurité. Il a été limogé, mais on lui a donné, d'une certaine manière, un poste en tant qu'attaché militaire à l'ambassade du Yémen aux Émirats arabes unis. Ce qui lui permet de quitter le pays et, en même temps, de ne pas se sentir totalement marginalisé. Alors, ce choix-là a un coût, bien évidemment, parce que, d'une certaine manière, elle permet, malgré tout, à ces anciennes élites de rester pleinement dans le jeu.
Alors, on le voit, le Yémen est tiraillé entre de nombreuses tendances, on l'a dit tout à l'heure, dont ne sont exclus ni les partis de gauche nationaliste ou socialiste, ni la jeunesse révolutionnaire, qui d'ailleurs, au passage, a créé son parti Al-Watan, me semble-t-il. Alors, dans ces conditions, le fédéralisme annoncé est-il une évolution positive qui tourne le dos au centralisme intransigeant de l'ancien président Salé au profit d'un pluralisme démocratique des régions, comme l'écrit le journal Al-Ayat depuis Londres, ou au contraire sera-t-il le fossoyeur d'un État yéménite au profit de mini-États construits sur des bases régionalistes ou confessionnelles, comme le pense la presse locale, Franck Mermier?
Alors, le paradoxe du Yémen, c'est que c'est dans un État faible, c'est avec un État faible qu'on fait une décentralisation extrêmement, forte, quoi. Très forte décentralisation. En général, c'est lorsqu'il y a un État fort que les revendications vont dans le sens de la décentralisation. Donc là, c'est avec un État faible qui ne contrôle pas du tout le pays. On le voit puisque tout récemment, les Zaydites dont on parlait sont arrivés à quelques kilomètres de la capitale, de Sanaa. Et en même temps, on sent bien que ce système centralisateur, mais qui n'arrivait pas finalement à fournir tous les besoins et les services à l'ensemble du pays, ne pouvait plus fonctionner. Alors, dans ce système fédéraliste, on reconnaît finalement des entités régionales qui ont une histoire aussi, qui culturellement ont une histoire dans le sens où des langues ont été préservées, des dialectes, des systèmes aussi religieux, des systèmes économiques, etc., qui ont une emprise locale très forte. Donc, il y a véritablement des centralités culturelles extrêmement fortes qui sont finalement reconnus quelque part par ce nouveau système fédéral.
Mais est-ce que le découpage tel qu'il est envisagé est un bon découpage?
Certains sudistes vont dire non, puisqu'ils auraient voulu que tout le sud soit fasse partie d'une seule région.
Alors que ce sera deux régions.
Deux régions. Certains vont toujours aussi, dans certaines régions, protester contre le fait que leur entité locale va être marginalisée dans un ensemble plus vaste, certes. Et dans le même temps, je crois que, malgré tout, je pense qu'il y a quand même une certaine logique dans ce type de découpage en six régions qui représentent grosso modo des entités plus ou moins régionales qui sont fortes, hein, disons avec des pluralités économiques et culturelles fortes. Donc je pense qu'il y a une certaine logique dans cela, d'autant plus que dans ce découpage aussi, il y a plus qu'un système, il y a aussi un système politique qui est en jeu, c'est-à-dire savoir quel va être le poids du président. Et dans ce nouveau système politique, il semblerait que la fonction présidentielle va être privée de certaines de ses prérogatives antérieures. Donc il va y avoir aussi une nouvelle organisation du pouvoir, avec aussi au niveau local des élections qui auront lieu pour les gouverneurs, on verra comment ils seront appelés, de ces entités régionales. Donc il y a aussi une décentralisation non seulement administrative mais aussi politique, et une formule qui est quand même très intéressante à l'issue de tous ces soulèvements arabes. On a là finalement un pays qui se confronte à son histoire et à sa diversité. Et je crois que ça, c'est intéressant.
Laurent Bonnefoy, est-il bien raisonnable de régionaliser ou de fédéraliser dans un pays dont on a dit, Franck Mermier l'a dit à l'instant, qui était un pays plutôt faible et surtout aussi un pays pauvre? Est-ce que c'est bien raisonnable?
Alors, je ne sais pas si c'est raisonnable. D'une certaine manière, l'avenir le dira. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'il y a une vraie tentative là de dépasser un certain nombre de différents et de faire un compromis. Ce compromis-là a été bâti, je dirais, par les élites elles-mêmes qui ont été rassemblées dans le processus de dialogue national. On avait 565 représentants. Alors, il y avait bien évidemment des différents, mais c'est un processus qui, malgré tout, ne doit pas être, balayer d'un revers de la main, comme le font malheureusement un certain nombre de yéménites. Mais il faut, d'une certaine manière, lui donner du crédit et considérer que c'est peut-être la seule chance aujourd'hui que le pays a, et donc de pas discréditer totalement ce qui a été entrepris.
Parce que sur le plan intérieur, on a l'impression que ce processus n'entraîne pas l'adhésion de la population, enfin en tout cas d'une majorité.
Alors il est vrai qu'il y a des résistances fortes, il y a des critiques qui s'expriment particulièrement dans les médias, on le voit dans les médias sociaux, Facebook, Twitter, etc. On a d'une certaine manière une opposition vraiment manifeste. Dans le même temps, les Yéménites mesurent d'une certaine manière ce qui n'a pas été accompli. Ils voient combien la situation économique s'est détériorée, et cette détérioration permet aussi à une forme de nostalgie de s'installer, et les Yéménites ne savent pas forcément quelle peut être l'alternative.
Franck Mermier, le fédéralisme, c'est la voie qu'il reste au Yémen pour tenter de s'en sortir ensemble?
En tout cas, c'est une solution importante pour éviter la dislocation du Yémen, c'est-à-dire que cette nouvelle organisation administrative et politique du Yémen permet au Yémen d'exister en tant qu'entité, puisqu'il y a des menaces très fortes aujourd'hui sur l'unité du Yémen. Moins peut-être au niveau de l'opposition zaydite au nord que au niveau du sud, où la crise économique s'aggravant, nombreux sudistes sont tentés par la voie séparatiste. Donc de toute façon, c'était une solution qui était, j'allais presque dire, obligatoire et qui était finalement assez raisonnable.
Vous écoutez RFI, l'émission géopolitique consacrée au Yémen. Abordons pour terminer la question des rapports entre le pays, le Yémen, et ses voisins, notamment le CCG, le Conseil de coopération du Golfe. Rappelons à ce propos que c'est sous la médiation du CCG que le départ avec impunité du président Ali Abdallah Saleh a été acté. Des rapports qui restent conflictuels, notamment avec l'Arabie Saoudite, Franck Mermier.
Alors, pour l'Arabie Saoudite, le Yémen, c'est une affaire intérieure. Hein. Il faut bien le savoir, c'est que durant des années, encore aujourd'hui, l'Arabie Saoudite exerce une très forte ingérence dans les affaires intérieures yéménites. Il ne faut pas oublier aussi qu'en 1934, il y a eu une guerre entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, et que l'Arabie Saoudite a conquis les deux provinces du Najran et de Asir. Une solution a été trouvée, disons un accord a été trouvé sur les frontières récemment, ce qui veut dire que le Yémen a reconnu finalement la prise de ces deux territoires, mais il y a donc une rivalité et puis aussi une hostilité de la part de nombreux yéménites vis-à-vis de son grand voisin, beaucoup plus riche, qui pendant des années à l'époque d'Ali Abdallah Saleh aussi, avant avait déjà soutenu les forces royalistes contre la République, mais ensuite avait soutenu de nombreux chefs de tribus en leur versant aussi des subsides. Donc il y a une ingérence très forte de l'Arabie Saoudite qui s'est concrétisée aussi par le fait qu'elle a joué un très grand rôle dans ce processus de transition pacifique du pouvoir, puisqu'elle a accueilli Ali Abdallah Saleh, et puis elle a aussi poussé les acteurs politiques à se réunir et à accepter le plan du Conseil de coopération du Golfe pour cette transition pacifique.
Laurent Bonnefoy, le Yémen est également une base arrière importante de la nébuleuse Al-Qaïda. Celle-ci multiplie les attentats contre des personnalités politiques et les forces de sécurité, car elle a, elle aussi, semble-t-il, son propre calendrier.
Alors, la question d'Al-Qaïda au Yémen, à mon sens, ne peut pas être distinguée des autres crises politiques. La prégnance, la capacité d'Al-Qaïda aujourd'hui à, d'une certaine manière, agir et à déstabiliser l'État central est directement liée aux autres conflits, particulièrement dans le Sud. Il est par ailleurs intéressant de constater qu'il y a malgré tout eu une réorientation des activités des groupes liés à Al-Qaïda en direction la cible privilégiée aujourd'hui, c'est bien les forces de sécurité. Et donc on est dans une configuration de guérilla assez classique. Il y a certes des velléités d'attaquer des Occidentaux ou bien de ce qu'on appelle une capacité de projection en dehors du Yémen, mais l'essentiel des activités est tourné vers les forces de sécurité.
Alors, est-ce que les pressions exercées par l'Arabie Saoudite sur les autorités au Yémen ont aussi comme arrière-plan la lutte contre Al-Qaïda, qui est à sa base arrière au Yémen, évidemment ?
Oui, alors la question d'Al-Qaïda est bien évidemment dans les fait partie des priorités de la politique saoudienne, notamment parce que en 2009 il y a eu une attaque qui a visé l'actuel ministre de l'Intérieur saoudien, une attaque qui a échoué, mais qui a très vraisemblablement marquer les esprits. Dans le même temps, je pense qu'il est important, quand on parle de la politique saoudienne au Yémen, de considérer que c'est une politique qui est excessivement fragmentée, qu'on a un grand nombre d'acteurs différents qui interviennent. Il y a des acteurs religieux, il y a des princes saoudiens qui ont des intérêts et des ce qu'on peut appeler des clients dans le cadre de relations clientélistes, hein, qui d'une certaine manière brouillent notre capacité de lire réellement cette politique étrangère saoudienne. Et donc on a des intérêts très très divergents et donc des actions qui d'un côté vont appuyer la centralisation de l'État, d'un côté vont chercher à développer l'économie du pays, et de l'autre vont davantage fragmenter, essayer de soutenir des chefs de tribus, etc., qui sont en opposition frontale avec le pouvoir yéménite.
Franck Mermier, est-ce que la question d'Al-Qaïda au Yémen, c'est un obstacle au processus de transition qui est en cours ?
Alors ça peut être à la fois un obstacle, puis aussi un moyen de renforcer ce processus, dans le sens où là on peut aussi trouver un ennemi commun, si on peut dire, de toutes les forces politiques par rapport à ces groupes qui sont aujourd'hui, ont une activité déployée dans tout le pays. C'est-à-dire c'est plus seulement dans le sud ou dans le nord, mais ils sont véritablement à une échelle nationale. Donc ce repoussoir commun permet aussi, d'une certaine façon, que cette entité de dialogue, cette forme de dialogue national, puisse continuer et puisse finalement aussi se faire en face pour contrer les différentes menaces du Yémen. Alors, on a parlé de menaces sécuritaires, l'Al-Qaïda, la menace sudiste, etc. Et puis une plus grande menace, peut-être, ce qui est aussi le terreau de toutes ces menaces-là. Pourquoi il y a autant de groupes armés d'Al-Qaïda et d'autres sudistes ou zaïdites, etc., c'est aussi qu'il y a une pauvreté très très grande et notamment qui pousse de nombreux jeunes à s'engager dans des groupes armés. Et donc je crois que c'est aussi très important pour le nouveau pouvoir de juguler non seulement cette menace-là, d'Al-Qaïda notamment, mais aussi de développer le pays pour que moins de jeunes puissent être tentés par cette solution.
Laurent Bonnefoy.
Oui, j'adhère tout à fait à ce qu'explique Franck Mermier. J'ajouterais que d'une certaine manière, Al-Qaïda est aussi non pas une chance pour le Yémen, loin de moi l'idée de le dire, mais simplement c'est ce qui aujourd'hui place le Yémen sur la carte internationale. Et dès lors que cette question-là est bien traitée par les chancelleries occidentales, elle constitue malgré tout une chance peut-être pour que on s'intéresse aussi à la question du développement du Yémen, qu'on ne considère pas que c'est finalement un endroit extrêmement périphérique. Et donc, ça nécessite un engagement fort pour le développement.
En tout cas, les États-Unis, eux, sont très présents pour la lutte contre Al-Qaïda, mais sous la forme de drones essentiellement, peut-être pas sous la forme d'une coopération économique avec le pays.
C'est pour ça que je disais, dès lors que c'est bien interprété, malheureusement aujourd'hui, et je pense que c'est une des clés de lecture aussi de ce qui se passe, c'est on constate que la grille qui est adoptée par les Occidentaux aujourd'hui est exclusivement celle de l'antiterroriste et avec une approche très réduite, à savoir qu'on intervient essentiellement par les drones, sans chercher à comprendre quelles sont les racines des mouvements violents.
C'est la fin de cette émission consacrée au Yémen et à son évolution politique, sociale et diplomatique. Merci à nos invités, Franck Mermier, directeur de recherche au CNRS, et Laurent Bonnefoy, chargé de recherche au CERI, tous deux spécialistes de ce pays, de la pointe sud de la péninsule arabique. Merci à Nathalie Laporte qui a mis en onde cette émission. Vous retrouverez Marie-France Chatin à ce micro dès samedi prochain. En attendant, bonne semaine à l'écoute de RFI.